Donc, pardonnez-nous ces moments de suspens technique. Donc, Jacques Neefs va nous parler de la pluralité des dieux. Et je vais quand même dire deux mots sur Jacques Neefs, bien que tout le monde connaisse ses travaux, pour dire qu'il vient de publier cette magnifique édition de Salammbô et qu'il prépare aussi l'édition de La Tentation de Saint-Antoine et de Bouvard et Pécuchet pour la Pléiade, et que ce thème des religions et de l'histoire des religions le tient depuis très longtemps. Mais oui, c'est une. Je pense simplement au texte qui est repris dans le travail de Flaubert, Le Défilé des Dieux. Et donc maintenant, nous t'écoutons.
Merci Anne, et merci en tout cas de cette belle conférence ici à Ischia. La pluralité des dieux. Dans l'œuvre de Flaubert, les foules ne sont pas si nombreuses. Même dans l'éducation sentimentale, dans les moments révolutionnaires, il y a des groupements, des masses populaires, mais qui sont relativement réduites ou indistinctes. Il y a la foule qui assiste, évidemment, terrorisée à l'assassinat au coup d'État du 2 décembre. Il y a des moments de foule, mais ceci est relativement rare. Dans Madame Bovary, dans Bouvard et Pécuchet, Un cœur simple, ce sont des univers finalement intimes, des lieux clos, d'où l'on rêve parfois aux ailleurs, des espaces de retrait, sinon de retraite, où seuls les objets, les interrogations, les désirs, les curiosités, eux, font pléthore, ils font encombrement. Dans ce lieu si intime de la maison de Bouvard et Pécuchet et dans tout l'espace, celui des objets. Les foules bigarrées, la prolifération des êtres divers, de la diversité des êtres qui excèdent leur espace et leur temps, sont réservées aux œuvres archéologiques, aux univers vus à distance, historiques, mythiques, mythologiques. Salammbô, Tentation de Saint-Antoine, Hérodias, Saint-Julien a une place intermédiaire, pourrait-on dire. Ce sont les œuvres encombrées d'histoire, de guerre et de dieux. La pluralité des foules et la pluralité des mythes et des dieux semblent consubstantielles. La fiction tente ainsi leur résurrection possible, selon les termes que Flaubert emploie parfois, et surtout selon un effet assurément très différent de la résurrection selon Michelet, puisque nous avons avec Flaubert des expositions massacres, expositions savantes, en même temps qu'une approche sensible et critique par l'art de la prose de ces objets passés, que sont les corps, les armées, les dieux, étant l'instant de leur résorption. Flaubert construit ainsi des postulations poétiques très complexes sur le lien entre les peuples et leurs dieux, sur l'intensité et la précarité des figures mythiques et mythologiques, sur le symbolique inscrit dans la trame de la diversité des peuples. Il y avait des hommes de toutes les nations, des Ligures, des Lusitaniens, des Baléares, des Nègres et des fugitifs de Rome. On entendait à côté du lourd patois d'Orient retentir les syllabes celtiques bruissantes comme des chars de bataille et les terminaisons ioniennes se heurtaient aux consonnes du désert, âpres comme des cris de chacal. Le grec se reconnaissait à sa taille mince, l'égyptien à ses épaules remontées, le cantabre à ses larges mollets. Il y a une prose très puissante. Des cariens balançaient orgueilleusement les plumes de leur casque. Des archers de Cappadoce s'étaient peints avec des jus d'herbe, de larges fleurs sur le corps. Et quelques lydiens portant des robes de femmes dînaient en pantoufles avec des boucles d'oreilles. D'autres, qui s'étaient par pompes barbouillées de vermillon, ressemblaient à des statues de corail. Je prends cet exemple comme départ, et je vais présenter une série de textes longs que je n'aurai pas le temps, évidemment, de lire tous, mais je voudrais qu'on conçoive ces textes comme des tableaux, comme des lieux, et pouvoir en parler. Ce qui est premier, c'est la pluralité des peuples. Il s'agit ici de la foule des barbares, lors du banquet qui est donné pour leur retour à la campagne, qui est une défaite de Sicile au début de Salammbô. L'œuvre, Salammbô, tente d'être le creuset de tout un univers tout l'univers de l'Orient antique et en fait de l'univers antique. Comme dans tous les chapitres de Salambo, lorsqu'il y a énumération d'armes, de lieux, de soldats, de mets, d'habits, c'est une géographie qui couvre l'espace critique et qui recouvre l'espace antique dans le rythme même des phrases. Ici, c'est fait de façon extraordinairement fine. Quatre phrases plus une dans le premier paragraphe. La première phrase sur les peuples, la deuxième sur les langues, la troisième sur des typologies physiques, la quatrième sur les mœurs vestimentaires, et puis la cinquième, d'autres, ailleurs. La géographie est d'une immense et d'une extraordinaire précision. La première phrase, des hommes de toutes les nations, les Liguriens, côte nord de l'Italie, les Lusitaniens, partie ouest de la péninsule ibérique, Portugal actuel, les Baléares, partie ouest de la Méditerranée, les Nègres, l'Afrique, le fond africain. Quant aux fugitifs de Rome, le roman tout entier est fait à distance de Rome, et pour se situer à distance de Rome, dans cette antiquité qui est anti-romaine. Deuxième phrase, les langues. Le dorien, langue grecque de la grande partie de la Méditerranée, de la Crète jusqu'à Chypre, Asie mineure. Syllabes celtiques, les langues des peuples du Nord et de l'Est de l'Europe. Terminaison ionienne, l'ionien iatique et le grec des peuples du Nord et de l'Est de l'Europe. C'est la langue littéraire la plus représentée. Cette géographie linguistique amplifie l'espace vers toute l'Europe, la partie orientale de la Méditerranée et l'Afrique. Troisième phrase, la phrase qui commence à... le grec se reconnaissait à la taille des mains, les corps, voire vers le peuple de l'Ibérie, le grec, l'égyptien, le cantabre. Quatrième phrase, les cariens, c'est de l'Asie mineure. La Carie est une ancienne province, etc. On a donc constamment, dans Salambo, et évidemment c'est ce qui est repris dans la Tentation de Saint-Antoine, des sortes d'inventaires de l'univers. Et ici, l'autre point fondamental par le rapport aux religions, c'est que ces peuples de toutes les nations sont décrits dans une variation très subtile, puisque ce sont les peuples, les langues, les typologies physiques, les mœurs vestimentaires qui permettent de démultiplier cet univers de façon très précise et au fond sans répétition, puisque ce sont quatre traits qui construisent une sorte d'être complet. L'identité nationale, les langues, la typologie physique, les mœurs. On remarquera que d'autres qui s'étendent barbouillés de vermillon ressemblaient à des statues de corail. Le texte achève ainsi le paragraphe en une sorte de figure qui n'est plus humaine, une statue de corail qui devient une sorte d'idole, d'idole enfin, de ces êtres étranges, statue de corail. Le paragraphe suivant résorbe cette multiplicité en l'homme animal, l'homme qui mange, l'homme lion, pacifique des lions lorsqu'ils dépècent leur proie, qui évidemment a une tension très importante par rapport à la suite du roman. Je prends en détail ce passage parce que c'est évidemment dans la trame de la prose que Flaubert constamment pose ces questions liées à la pluralité et à l'histoire des religions. C'est la trame de la prose qui constitue ces patchworks très subtils, très nuancés d'un univers de la multiplicité et précisément de l'agone, de l'agonistique, de la lutte, l'agonistique des images dont vous parliez tout à l'heure, est très importante. J'y ajouterai un point important ici, c'est la question de la matière sonore du langage. On entendait à côté du lourd partois d'Orient, que Flaubert, ici, donne une sorte d'attention à la voix. La voix et le langage est fondamental dans Salambo, dans la mesure où, précisément, il y a pluralité de monde, et un autre épisode indique que les barbares ne se comprennent pas eux-mêmes et entre eux ne comprennent qu'un seul mot qui est frappe. Ce que Conrad reprend dans The Nigger of Narcissus, avec cette idée que la pluralité des langues fait qu'un seul mot est commun, c'est celui de la violence. Frappe, hit, 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 dans Nigger of Narcissus. Et donc on a là, sur cette question de la langue, quelque chose de très important, cette matière de la langue, parce que la matière sonore du langage est une part de la coexistence des multiples. Est une part de cet être divers commun, cet être divers en commun, qui naît dans le génie de la religion, insiste beaucoup sur le fait que les religions sont issues des migrations, et les religions sont issues des langues, de la pluralité des langues. Dans le génie de la religion, c'est un texte tout à fait admirable, qui naît pose l'origine de l'État dans les religions, c'est-à-dire dans les croyances, et précisément dans ces multiplicités originaires qui font que les peuples se parlent et transportent avec eux leurs mots et leurs dieux, leurs dieux et leurs mots. On est tout à fait dans ce type de registre avec Flaubert, ici, dans Salammbô. Deux saluts maintenant. Celui-ci, c'est celui de Spendius, première apparition dans le roman, que Flaubert avance considérablement par rapport à, je dirais, l'histoire réelle, en tout cas par rapport à Polybe et à Michelet. Flaubert fait intervenir Spendius très très tôt, alors que dans l'histoire historique, il est très tard. « Salut d'abord à toi, Baleshmoun libérateur, que les gens de ma patrie appellent Esculape, et à vous, génie des fontaines, de la lumière et des bois, et à vous, dieu caché sous les montagnes et dans les cavernes de la terre, et à vous, homme fort, aux armes reluisantes, qui m'avez délivré. » Spendius, c'est le cynique du roman. Spendius ne croit à rien. Spendius vient d'être libéré de l'ergastule, mais il y a là une sorte de salut absolument emblématique. Et l'histoire des religions montre à quel point, ceci est très clair, à quel point le salut par les dieux était une modalité du salut. Salut d'abord à toi, Shmoun, que les gens de ma patrie appellent Escula. Ce point est tout à fait fondamental, puisque Saint-Dieus dit là que votre dieu, c'est mon dieu. Mais précisément, deux noms, un dieu. On est là dans une dimension fondamentale de l'histoire des religions, qui est celle de la comparaison possible ou de l'identification possible des dieux. Jan Assmann, à partir de l'égyptologie, a montré que, en fait, cela remonte à la plus haute antiquité des religions. Il y a une tradition de traduire et d'interpréter les noms divers pour des étrangers, et cela remonte au glossaire sumérien-acadien pour des raisons de traité. Pour des raisons de loi, c'est-à-dire qu'il faut bien savoir que si on présente ce dieu, il faut dire ce dieu c'est cet autre dieu. Ou plutôt, il y a une translabilité, une traductibilité des dieux par leur nom, et ceci est au cœur même de l'histoire de religion. Et c'est très étrange ici que Flaubert prend alors, une tradition absolument moderne du 18e, 19e siècle qui consiste à dire ce dieu c'est ce dieu, Hercule, Apollon, etc. Enfin, ou Hercule, enfin, toute la traduction classique des Grecs et des Romains par exemple, mais précisément il en fait une sorte d'acte immédiat de présentation de soi que les gens de ma patrie appellent Esculape. De fait, on lit dans toutes les notes que Eshmoun est un dieu qui soigne et donc il est qu'on a associé à l'Esculape dans toute l'Antiquité. Ce qui est intéressant, c'est que Flaubert, ici, dans la prose, dans une phrase qui, encore une fois, est une phrase de pure convention, à la bouche de Spendius, pose cette question de l'identité des dieux comme monnaie d'échange, comme nom qu'on peut s'échanger. Dans ce début de Salammbô, on a une topographie de Carthage. Flaubert, très soigneusement, crée une topographie de Carthage qui inscrit dans l'espace le panthéon essentiel de la cité, avec ici pour la première fois Eshmoun, et Eshmoun, le temple d'Eshmoun vient d'être cité, et un peu plus loin on verra le temple de Khamon, dieu solaire, puis encore un peu plus loin l'allusion au temple de Tanit qui est le parèdre de Khamon, et ce triangle est le panthéon essentiel de Carthage. Flaubert aborde donc les religions comme des places, des lieux, des temples, des noms dans leur pluralité commune. Et ici, avec cette idée d'Esculape, Shmoun Esculape, on voit comment il pose dans une phrase la question de l'échangeabilité des dieux. Deux noms, un dieu. En plus, Spendius passe à un autre niveau des dieux. Génie des fontaines, de la lumière et des bois. C'est-à-dire la version naturaliste des religions qui viennent du monde, de l'expérience des choses. Puis, dieu caché sous les montagnes et dans les cavernes de la terre, la dimension chtonienne des grandes religions antiques. En trois phrases, Flaubert pose absolument toute l'échelle possible de ces religions d'antiquité, y compris donc l'hypothèse des sources naturelles, des génies, des fontaines, et des dieux cachés, c'est-à-dire de la version chtonienne, puissante des dieux, qui sera très développée dans tout le roman de Salammbô. Pour finir, et c'est là que l'homme Spendius est l'homme sceptique, et vous, hommes forts, aux armures reluiseuses, qui m'avez délivré. C'est-à-dire que les dieux n'ont servi à rien, mais c'est bien sûr les hommes forts qui ont joué ici. Deuxième salut. Oh, Rabetna, Balette, Tanit. Et sa voix se traînait d'une façon plaintive, comme pour appeler quelqu'un. Et sa voix se traînait d'une façon plaintive pour appeler quelqu'un. Je m'arrête un instant sur cette phrase. D'abord, le « et sa voix ». Rabetna, Balet, Tanit, et sa voix se traînait d'une façon plaintive, comme pour appeler quelqu'un. La phrase est à la fois complètement naïve et fondamentale. Qu'en est-il de l'appel aux dieux, du salut des dieux, pour appeler quelqu'un? C'est la solitude humaine qui est en lieu. En lieu et place, ici, c'est la solitude radicale des humains. Anaïtis, Astarté, Derceto, Astoreth, Milita, Atara, Elissa, Tirata. Je ne sais pas s'il faut le lire en allant un peu plus intensément dans le côté purement verbal de la chose. Anaïtis, Astarté, Derceto, Astoreth, Milita, Atara, Elissa, Tirata. On pourrait le théâtraliser, cela, d'une certaine manière. Par les symboles cachés, par les sistres résonnants, par les sillons de la terre, par l'éternel silence et par l'éternelle fécondité, dominatrice de la mer ténébreuse et des plages azurées, ô reine des choses humides, salut. On aura d'autres saluts, par exemple, chez Lautréamont à l'océan, mais beaucoup plus parodique. Mais ici, ce mélange de verbalité pure, et de profondeur, d'une certaine manière. Il se balança tout le corps deux ou trois fois, puis se jeta le front dans la poussière, les bras allongés, et tout à fait saisissant. Là encore, il y a une vraie géographie de la diversité des comparables, ou plutôt des diversités identifiables les unes aux autres. On a ici, on avait tout à l'heure un dieu deux noms, Eshmoun, qu'on appelle chez moi Esculape. Ici, on a neuf noms pour un dieu. Cette question de la pluralité des dieux et de leur coïncidence éventuelle est constamment déclinée dans la prose, dans ce type d'écriture. En effet, ceci vient du savoir antique, de l'Antiquité. Anaïtis était honoré chez les Libyens, Astarté chez les Phéniciens, Derceto chez les Syriens, Milita chez les Assyriens. Les Phéniciens célébraient également Derceto. Tirata est l'un des noms de la grande déesse de Syrie. Depuis, dans son Origine de tous les cultes et la religion universelle, au Traité des Mystères, fait de telles références comparatistes. La déesse Vénus, je cite Dupuis, que Flaubert a beaucoup utilisé, adorait en ce lieu, il s'agit de Byblos, la Laconte Phénicie, sous le nom Astarté, coiffée d'une tête de taureau, sous celui de Salambo chez les Babyloniens, on trouve le nom de Salambo chez Dupuis, hein. Salambo mais avec un seul M, chez les Babyloniens, sous celui de Milita chez les Assyriens, Dalila chez les Arabes, d'Aphrodite chez les Grecs, d'Anaïtis et Mitra chez les Perses, etc. Flaubert trouve également cela chez Creuser, la religion de l'humanité, est-il besoin d'indiquer les analogies nombreuses qui s'offrent à l'esprit qu'on retrouvera dans la suite. Et Michelet lui-même commente cela sur le fait que Salambo, enfin à propos de Tanit, je reviendrai là-dessus. On a donc, dans ce rapport au comparatisme universel, qui est à la fois moderne et encore une fois antique, ici une utilisation dans la prose qui consiste à littéralement emporter ces relations pourtant profondément problématiques dans l'ascension des représentations symboliques et métaphoriques, y compris évidemment par le passage par les symboles cachés. Là, on est vraiment dans l'universalité possible du rapport au religieux, les symboles cachés, les sistres résonances, le bruit, les sillons de la terre, l'éternel silence, l'éternelle fécondité. Nous allons vers le niveau élémentaire des, je n'ose plus dire sensations, mais enfin du rapport élémentaire au monde et à l'être au monde, dominatrice de la mer ténébreuse et des plages azurées. On est dans cette zone en reine des choses humides, dans cette zone métaphorique des choses humides. Flaubert ici, ce n'est pas sans ironie, hein, dans ce passage, évidemment, dans tout Salambo, il y a une ironie érotico, quelquefois grossière, qui est tout à fait puissante. Mais précisément, c'est le lieu de ce rapport à la religion. On a donc ainsi une puissance par l'écriture pour dire l'attrait imaginaire sensible, énigmatique de telle croyance, et se poser évidemment la question, en extrayant des univers où cela, semble-t-il, était un rapport au Dieu, qu'est-ce que cela devient ? Sinon, précisément, une sorte de leitmotiv, à la fois figuratif et sensoriel, qui a une certaine poéticité, reine des choses humides, en même temps qu'une sorte d'ironie, et on voit très bien ici comment la prose est une puissance de captation et de réduction en interrogeant ce rapport à la pluralité des croyances et des dieux. Alors elle se mit à chanter les aventures de Melkar. L'autre lieu dans Salammbô qui est déterminant pour ce rapport à la multiplicité des dieux, c'est celui évidemment des grandes cosmologies. En voici une. Je ne vais pas la lire en entier, je vais simplement signaler qu'on a là une généalogie mythique, qui a une source mythologique bien précise, et qui est en fait une sorte de cosmogonie synthétique à propos d'Amilcar, serviteur de Melkar. On trouve dans Kreutzer, Hercule est le même que Baal-Khamon, lequel est identique au Baal-Moloch et au Melkar de Tyr. Ça, c'est Kreutzer. Ce dernier nom se retrouve chez les Carthaginois dans celui d'Amilcar. On a donc une généalogie tout à fait classique de la grande famille qui remonte aux dieux. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette généalogie, cette cosmogonie d'origine, Flaubert le dispose dans une sorte de scénographie fondamentale qui est d'abord dans l'actualisation en indirect et direct. Elle disait l'ascension. Le mot disait est tout à fait extraordinaire. Elle disait l'ascension des monts d'Épiphanie, puis direct, il poursuivait dans la forêt le monstre fenêtre, etc. Puis Salammbô, sans s'arrêter, raconta comment Melkar. On dit le culte, on dit le mythe, on raconte le mythe, on peut le résumer. Après avoir vaincu Massibal, a mis à la proue du navire la tête coupée, et à nouveau, citation directe, à chaque battement des flots, elle s'enfonçait sous l'écume, et les larmes continuellement tombaient dans l'eau. Et enfin, elle chantait tout cela. Et le chant se substitue ici à la compréhension même. Tout cela dans un vieil idiome cananéen que n'entendaient pas les barbares. La scène que construit ici Flaubert, c'est cette scène de l'intensité religieuse, de la grande cosmogonie, de la généalogie mythique, telle qu'elle peut être jouée. Et montée autour d'elle sur les tables, sur les lits, dans les rameaux de sycomore, la bouche ouverte et allongeant la tête, ils tâchaient de saisir ces vagues histoires qui se balançaient devant leur imagination. Et là, on est tout à fait dans cette théorie de l'imaginaire que évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce que sont ces images, ces vagues histoires se balançaient devant leur imagination à travers l'obscurité des théogonies, comme des fantômes dans des nuages. La métaphore seule pouvant, une métaphore presque baudelairienne, hein, comme des fantômes dans des nuages, ramener à une sorte de compréhension de ce que peut être le rapport profond à l'énigme quand elle est jouée, quand elle est chantée, y compris d'ailleurs, indépendamment de ces mots, un vieil idiome que n'entendaient les cananéens, que n'entendaient pas les barbares. C'est en construisant des scènes comme celle-ci que Flaubert, au fond, se rapporte à la question même, premièrement de la pluralité des mythes et des légendes, des contes, et deuxièmement, à la scénographie qui fait que l'on peut adhérer à ces contes, qui fait que l'on peut avoir un rapport avec ces lieux, avec ces mythes. Elle ignorait les simulacres obscènes, car chaque dieu se manifestant par des formes différentes, des cultes souvent contradictoires témoignaient à la fois du même principe. Et Salammbô adorait la déesse en sa figuration sidérale. Il y a ici un commentaire presque théorique, on pourrait dire, sur ce rapport à la multiplicité des dieux et à la question de la simplification de l'unité. En fait, cette phrase prise dans Salammbô a une connotation, disons, relativement profonde. Mais cette phrase, c'est du Bouvard et Pécuchet. Chaque dieu se manifestant par des formes différentes, des cultes souvent contradictoires, témoignait à la fois du même principe. C'est le type d'aporie fondamentale que l'on trouve dans les savoirs, dans Bouvard et Pécuchet. Avec cette théorie, forme contradictoire et pourtant c'est la même chose. Ça peut être pour la chimie, ça peut être pour les théories historiennes, etc. On a ici la volonté de se rapporter, et c'est l'étrangeté de Salengo, dans un rapport mimétique de quasi-adhésion à l'aporie fondamentale du rapport à la multiplicité. Témoigner à la fois du même principe, et Salengo adorait la déesse en fiction sidérale. Salengo, qui est naïve, innocente, est du côté évidemment d'une figuration entièrement mimétique. Une influence était descendue de la Lune sur la Vierge. Cette phrase est étonnante, une influence était descendue. Ce n'est pas de l'astrologie, hein. Et presque une influence était descendue de la Lune sur la Vierge. Quand l'astre allait en diminuant, Salengo s'enflaiblissait. Languissante toute la journée, elle se ranimait le soir pendant une éclipse. Elle avait manqué mourir. On voit très bien ici à quel point la prose se fait proche d'une capacité d'être les croyances, et en même temps, évidemment, tout ceci est un seuil d'extrême fragilité près de la bêtise, près de l'ironie profonde. Pendant une éclipse, elle avait manqué mourir. Exactement le même type de seuil dans Bouvard et Pécuchet par rapport au savoir, sur l'expérimentation sur soi. Et là, on voit très bien à quel point cette pluralité des dieux et des croyances sont portées dans la prose, dans une limite où le texte devient une interrogation profonde sur l'aporie et la manière de se rapporter à cela. Avant les dieux, les ténèbres étaient seules et un souffle flottait, lourd et indistinct. Ce qui est intéressant, c'est que dans Salengo, Flaubert donne des étages différents. Salengo a une croyance diffuse, simpliste, des images. Ici, on a une version tout de suite après d'une cosmogonie plus abstraite. Plus abstraite également que celle de la fable de Melkar, hein, avant les dieux, les ténèbres et les hommes. Ici, c'est Shahabarim qui explique. Puis la matière se condensa, elle devint un œuf, il se rompit. Là encore, l'étrangeté extraordinaire de ces phrases, ce sont celles de tentation de Saint-Antoine. Dans Saint-Antoine, il y a constamment, à reprise, ce type de cosmogonies élémentaires qui sont prises, et c'est ça l'étrangeté et la puissance, qui sont prises de manière quasi-réaliste. Elle devint un œuf, il se rompit. Qui sont prises dans une sorte de littéralité effective, tout en étant une sorte d'imagerie évidemment impossible. Une moitié forme la terre, l'autre le firmament. Il y a une sorte de conviction dans la simplification qui est tout à fait saisissante. Le soleil, la lune, les vents, les nuages parurent. Voilà une genèse tout à fait classique. Et ceci, au fond, produit une étrangeté profonde. Quelle est la puissance de ces fables génétiques? Dans ce Bouvard et Pécuchet, il y a le même type d'interrogation sur les représentations, par exemple, de la création du monde scientifique, la version scientifique de la création du monde, par Cuvier. Il y a le même type d'interrogation sur la capacité de se représenter des données du réel, telles que la science peut le donner. On a ici, dans cette cosmogonie plus abstraite, tout de même une sorte de... une manière d'absorber, de rendre le sensible. Et on a, dans la vie de Jésus, Renan... écrit à l'époque de Jésus, le ciel n'était pas fermé, ni la terre refroidie. La nuée s'ouvrait encore sur le fils de l'homme. Les anges montaient et descendaient sur sa tête. Et Renan aussi signale cette croyance, et il faut écrire très simplement pour se rapporter à ces univers de croyance où le ciel était ouvert. Et on voit très bien ici comment Flaubert, dans Salengo, cherche aussi à se rapporter à des moments où les Kabirim descendirent sous les volcans et Rapetna, telle qu'une nourrice, se pencha sur le monde, versant sa lumière comme un lait et sa nuit comme un manteau. On retrouve ici les divinités ctoniennes. Le paragraphe est construit de façon très précise, le soleil, la lune, la terre, la sous-terre, pour s'achever précisément par un enveloppement qui capte la multiplicité, versant sa lumière comme un lait et sa nuit comme un manteau. Il s'agit évidemment du manteau de Tanit. Voilà donc des exemples nombreux que Flaubert met en scène dans la prose, en même temps qu'il met en scène des sortes de moments d'imagerie. Là, je vais aller très vite parce que ces éléments sont connus. Et ici, sont une lumière éblouissante. C'est bien ça, oui. L'entrée de Mato Ismadius dans le temple de Tanit, je signale simplement, et toutes les formes se trouvaient là, comme si le réceptacle des germes, crevant dans une éclosion soudaine, se fût vidé sur les murs de la salle. Là aussi, c'est très proche de choses qu'on trouve dans les modalités de la projection d'image qu'on trouve dans la tentation de Saint-Antoine. Pulvérisation d'image. On voit bien ici comment le rapport à la représentation comme simulacre est le résultat d'une sorte d'énergeia, d'une sorte d'énergie, comme si l'image devait trouver sa source dans une énergie de production, avec une sorte d'actualisation figurale infinie. La genèse du monde doit être perçue dans la genèse de l'imagerie. La multiplicité est à la fois enveloppante et fixe. On a une sorte de fantasmagorie de foire. Mato fit un pas, une dalle fléchit sous ses talons, et voilà que les sphères se mirent à tourner, les monstres à rugir. Là aussi, dans la tentation de Saint-Antoine, il y a de nombreux moments où tout à coup il y a une sorte de mécanique, de lieu de foire, où les représentations s'animent comme dans un spectacle. On sait le rapport de Flaubert aux féeries. Et de fait, là aussi, Flaubert touche un point très fondamental de l'histoire des religions, c'est que ces lieux comme ça de mise en scène existaient réellement depuis à partir de la période alexandrine, d'Alexandrie. C'est-à-dire qu'il y avait, ça, Borgeau l'explique dans son livre, il y avait des mises en scène de ce type de spectacle pour séduire les fidèles, ou pour les maintenir les fidèles, une sorte de rapport imagé qui était animé avec des lieux d'illusion, des lieux de simulacre absolu pour les temples et les religions. L'effet de la dalle et tout s'anime, qui est si puissant dans la tentation de Saint-Antoine, renvoie là aussi à une réalité antique de la mise en scène du religieux pour séduire. On a donc constamment dans ce texte de Flaubert un rapport à l'histoire des religions qui est à la fois un rapport documenté, mais dans lequel la représentation qu'il produit voudrait mimer ce que pouvait être la captation de séduction dans l'Antiquité, la captation de séduction des croyants de l'époque. La pluralité est constamment mise en jeu comme séduction. Ici, simplement, tout à la fois, je relève simplement la fin de ce paragraphe, c'est le manteau. Cela passait comme un manteau sous le visage de l'idole, c'est pour faire une pause avant la conclusion, et remontant étalé sur le mur, s'accrocher par les angles, tout à la fois bleuâtre comme la nuit, jaune comme l'aurore, pourpre comme le soleil, nombreux, diaphane, étincelant, léger. Et là, on voit bien comment la prose va vers une sorte de poéticité. Bleuâtre comme la nuit, jaune comme l'aurore, pourpre comme le soleil, dans lequel, alors, la question fondamentale du rapport, qui est une des théories du XIXe siècle, on en a déjà parlé, bien connu, qui serait que les mythes, les figures sont toujours des représentations des éléments naturels. Ici, la phase est renversée, puisque ça devient ce triomphe des métaphores, tout à la fois bleuâtre comme la nuit, jaune comme l'aurore, pourpre comme le soleil. La nuit, l'aurore, le soleil. La phrase porte avec elle une sorte de beauté élémentaire, moderne, tout à fait moderne, Baudelaire, proche de Baudelaire, et qui est capté au passé, à ses religions, mais pour produire, et non pas du religieux, mais pour produire de la beauté, précisément, contemporaine. C'était le manteau de la déesse. Alors, pour terminer, je voudrais passer à deux grands textes, en conclusion, où je viens à la tentation de Saint-Antoine, je vais passer celui-ci, pour souligner deux traits. Nous sommes dans la tentation de Saint-Antoine de 74. Sa manière de parler des dieux inspire l'envie de les connaître. Je me rappelle en avoir vu des centaines à la fois dans l'île éléphantine du temps de Dioclétien. L'empereur avait cédé aux nomades un grand pays à condition qu'ils garderaient les frontières, et le traité fut conclu au nom des puissances invisibles, car les dieux de chaque peuple étaient ignorés de l'autre peuple. Là, on retrouve tout à fait ce trait que Jan Assmann a vraiment commenté dans God and Gods, c'est-à-dire ce trait de l'échangeabilité des dieux. Ici, le traité fut conclu. Et si les dieux ne se connaissent pas, si on n'a pas la monnaie d'échange, à ce moment-là, on passe aux puissances invisibles. C'est-à-dire, cette idée, au fond, ça rejoint peut-être l'idée que Quinet pouvait avoir du fait que les religions sont la source du droit, que le rapport à des dieux crée la loi, d'une certaine manière, et que les sociétés sont issues des religions, et non pas l'inverse. En tout cas, c'est cette idée que les humains se parlent au nom des puissances invisibles. Et ce trait est tout à fait saisissant. Les barbares amenaient les leurs, ils occupaient les collines de sable qui bordent le fleuve. On les apercevait tenant leurs idoles entre leurs bras comme de grands enfants paralytiques. Ou bien naviguant au milieu des cataractes sur un tronc de palmier, ils montraient de loin les amulettes de leur cou, les tatouages de leur poitrine. Et cela n'est pas plus criminel que la religion des Grecs, des Asiatiques, des Romains. Le comparatisme est une autre dimension que je ne commenterai pas maintenant, je l'ai commenté dans un séminaire précédent. Mais ce que je voulais signaler ici, c'est à quel point, en captant du passé et des figures, Flaubert invente ces scénographies que j'appellerais modernes. Il y a une sorte d'installation ici. On les apercevait tenant leur idée entre leurs bras comme de grands enfants paralytiques. C'est d'une grande beauté. Il y a une visibilité donnée à des scènes lointaines, incertaines, mais en même temps extrêmement précises, puisque tout ceci est d'une précision prosodique et visuelle et visionnaire, tout à fait importante, savante, c'est-à-dire qu'on l'a bien dit, que les traits, les détails viennent de l'érudition, et en même temps pris dans une prose qui, précisément, crée une sorte de féerie moderne, qui n'est plus habitée par la croyance en ces dieux, mais qui est habitée par une sorte de séduction de l'étrangeté, une séduction de la pluralité, une interrogation sur ce qui unit tout cela. Qu'est-ce qui fait que tout tient ensemble? Et c'est l'œuvre, évidemment, qui fait tout tenir ensemble. Et l'autre exemple... le dernier exemple que je voulais apporter, bien connu, c'est cette mise en récit poétique, active, qui consiste à animer, avec la dualité primordiale des brahmanes, précisément l'efflorescence de la multiplicité. Alors là encore, c'est absolument savant, ça vient d'une planche de Kreutzer, bien connue, mais la narrativiser comme il l'est fait, en face d'eux immédiatement surgissent trois déesses. Et ces dieux, ces déesses se décupent, se multiplient, sur leurs épaules poussent des bras, au bout de leurs bras, des mains. Et la prose de la métamorphose ici se rapporte, pas simplement évidemment à la description d'une divinité ancienne, mais se rapporte à cette interrogation sur la puissance de production proliférante d'images. Un dieu, plusieurs dieux. Un dieu est une infinité de dieux. Une infinité de dieux, c'est peut-être un seul lieu dans les échanges, dans le croisement. C'est-à-dire que l'œuvre de Flaubert, quand elle met en scène ces dieux, quand elle les met en scène, pose ainsi une interrogation tout à fait fondamentale qui a un rapport pas seulement à l'histoire des religions, mais qui a un rapport, au fond, à la création humaine des figures, des dispositifs de figures que les humains s'inventent pour eux-mêmes. Recherche de la religion, Goethe cherchait dans la circulation une métamorphose à travers la diversité empirique des phénomènes religieux, une seule chose, une seule métamorphose. Ici, Flaubert cherche à mettre en évidence les différences, les spécificités, mais au profit d'une interrogation sur l'unicité de chaque dieu. Tous les dieux sont dieux. Un dieu est pleinement dieu, même s'il est précaire. Dans ce texte, dans ce mouvement, Flaubert, au fond, fait apparaître, en exposant, un suspens. Ce qu'il retient de l'indétermination des objets, c'est qu'ils tiennent dans la volonté de l'adhésion qu'on leur porte. Il y a une sorte de mélancolie qui n'est pas du tout nervalienne. Ce n'est pas une mélancolie de la pluralité des dieux, de dieux proches, de leur familiarité pour les enfants du limon. Il y a une radicale réduction. Il y a une réduire la toute-puissance des figures pour faire surgir leur infinie précarité. Il y a une lecture, une production d'images, d'étrangeté, à la fois par la beauté de la prose, mais qui fait de ces figures un attrait puissant, désuet. Un attrait qui ne peut plus passer que dans une prose moderne où l'attrait est évidemment d'une toute autre nature. Et je voudrais terminer par la lecture d'un sur cette question précisément des métaphores, où l'image devient métaphore, l'image des dieux devient une sorte de métaphore d'autre chose, un poème de Raymond Queneau, qui était un passionné de la gnose, qui s'intitule « L'explication des métaphores ». Loin du temps, de l'espace, un homme est égaré, mince comme un cheveu, ample comme l'aurore, les naseaux écumants, les deux yeux révulsés, et les mains en avant, pour tâter le décor, d'ailleurs inexistant. Si je parle des dieux, c'est qu'ils vivent sous terre, insufflant dans le sol leur haleine vivace. Si je parle des dieux, c'est qu'ils couvent le fer, amassent le charbon, distillent le cinabre, c'est un mot qu'on trouve chez Flaubert. Sont-ils dieux ou démons? Ils emplissent le temps, minces comme un cheveu, amples comme l'aurore, les mailles des yeux brisés, les naseaux écumants, et les mains en avant, pour saisir un décor, d'ailleurs inexistant. Ce sont ces métaphores que Flaubert essaie, de manière répétitive, monotone, d'expliquer ou de rendre étrange et puissante à travers sa présentation de la multiplicité des dieux.
Merci beaucoup. Très belle démonstration de la puissance de la prose flaubertienne à tenir à la fois l'un et le multiple, et puis cette séduction, comme tu disais, de l'étrangeté, de faire saisir cette séduction de l'étrangeté, à la fois par la sonorité de la prose et puis les images qui sont données à voir. Je vous fais la discussion. Agnès Bouvier, Barbara Lincoln, Jörg Lune.
Des très beaux passages là-dessus, dans Génie vers les géants. Il dit par exemple que les peuples asservis peuvent être asservis, mais les dieux ne sont jamais asservis. Et voilà. Et que donc l'esclave, mais il a ses dieux. Et ses dieux, eux, ne sont jamais asservis. Il y a une sorte de résistance comme ça. Et il y a des très beaux passages de Kiné sur ce point, sur ce rapport du transport des dieux. Et Kiné en fait la théorie du génie des religions. C'est-à-dire, le génie des religions, c'est cette capacité de transporter avec la langue, dans les migrations, avec la langue, les figures des dieux et leur puissance de négociation dans les uns les autres.
S'emparer de la puissance des dieux, de ceux qu'on a vaincus. Ce n'est pas que le vaincu garde ses dieux, etc. C'est bien que le vainqueur.
Oui, mais Kiné insiste sur le fait que. Kiné insiste sur le fait que malgré tout.
Ça joue aussi dans son sens.
Il insiste que malgré tout, il y a une sorte de puissance d'indestructibilité des dieux. Bon, ça va vers la notion de syncrétisme. Ça va vers la notion de syncrétisme, mais précisément, Kiné ne développe pas cette notion de syncrétisme. Il est pour la résistance des dieux. Ça, c'est tout à fait intéressant.
Les détruire aurait été dangereux.
Barbara, tu voulais intervenir.
Je voudrais bien qu'on revienne sur le texte. Il y a un idiot que.
Pardon, le texte.
Qui se balançait devant les yeux. Enfin, oui. On aboutit à une de ces impasses qui se trouvent dans Saint-Lambeau, où il y a à la fois une figuration et une défiguration, oui. Et une espèce de néantisation de ce qui est exprimé.
Oui, tout à fait.
Il y a une babélisation des voix. Il y a une babélisation des voix.
Oui, donc on le voit. J'étudiais pendant son passage, je me souviens même du numéro de Fouillon, qui avait presque 27 dans la série. On voit en marge Hubert qui avait commencé à dire les barbares s'amusaient de telle image, et puis riaient de tel mot, et puis il rêvait tout, mais il n'entendait pas ce qu'il disait, etc. Oui. Qui est une espèce de dispersion du sens.
Oui, mais c'est précisément ce que je soulignais, c'est-à-dire que même si on ne comprend pas, évidemment, ça donne tout son sens à l'obscurité des théogonies, comme des fantômes. Mais à travers cette non-langue ou de langue, il y a cette puissance fantomatique d'une histoire. C'est la gestuelle aussi qui signale, hein, c'est-à-dire que si on veut être réaliste, avec les gestes effrayants dont elle accompagnait son discours, cette idée qu'au fond, il y a une sorte de gestuelle qui peut être signifiante. Oui, 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 bien sûr. Oui, oui.
Non, mais je.
Oui, c'est bien sûr. Bien sûr.
Bien sûr.
Sauf que dans Félicité, elle crut voir. Là, ils sont Flaubert invente une scène de fascination. Une scène de fascination, c'est autre chose.
Une fascination sonore aussi.
Oui, oui, oui.
Alors, dans l'ordre barbare.
Liturgique, pardon. Fascination liturgique. Exactement. Oui. Une sorte de liturgie barbare. Liturgie élémentaire.
Alors. Barbara voulait prendre la parole.
Pas assez insisté peut-être sur le caractère destructeur et radicalement mis à distance, mais c'est évidemment le sens de tout cela. Parce que je voulais surtout montrer que, quand même que cette pose capte une certaine beauté moderne à la destruction de ces figures antiques. Mais en même temps, il fait de cette figure antique un lieu d'agonistique, c'est-à-dire que c'était un lieu de constant de débat, de lutte, et c'est évidemment le sens de la tentation de Saint-Antoine. Ce sur quoi je voulais insister, évidemment, c'est un radical... Flaubert dans une lettre, dit qu'il aime la période entre Cicéron et la chrétienté parce que c'était le grand vide, le vrai scepticisme, la période noire. Et en effet, c'est toute cette pratique consiste à montrer comment les humains remplissent le noir, comment les humains remplissent le vide.
Entre le ne plus et le pas encore.
Voilà. Et comment les humains remplissent une espèce d'horizon absolument vide. Et il y a ces tumultes. Alors, l'aspect biblique, par contre, c'est encore autre chose. Je n'en ai pas parlé du tout. On retrouvera cet après-midi avec Françoise, sans doute, autour du sacrifice. Parce qu'évidemment, dans Salammbô, il y a aussi la terreur du sacrifice, la recherche du sacrifice. Et ça, évidemment, c'est tout à fait une autre dimension. Non, je voulais simplement ce matin m'arrêter sur la beauté moderne dans la démonstration de l'infinie précarité de ces figures que les humains se donnent. Ça, c'est...
Oui. De la métaphore qui vise
tout à fait,
le transcendant et qui fait que justement le beau moderne, c'est un beau quand même étrangement, étrangement brutal.
Absolument. Oh ben, effectivement. C'est vraiment le beau de 1850. Hein. Ça, c'est tout à fait cela. Hein. Oui, bien sûr. Il y a une brutalité. Ouais.
François, tu voulais intervenir, non, c'est... Personne.
Jürgen.
Bon, on va peut-être arrêter là.
J'ai une question. La première reprend un peu la question des deux récits que le japonais va avoir d'Afrique. Partant de Asman, ce que j'ai trouvé très intéressant. Donc, il y a comparatisme possible des religions chez Asman, quand il n'y a pas de monothéisme. Le monothéisme exclut tout ça.
Absolument.
Donc, si on va plus loin en ce sens, si on adhère à Asman, il faudrait peut-être même aller jusqu'à dire qu'il y a une mise entre parenthèses assez radicale du monothéisme chez Flaubert.
Je ne suis pas allé là parce que c'était le temps. Je préférais essayer d'aborder cette beauté moderne dans le rapport au chaotique ancien, bon, et à la précision. Donc je voulais m'arrêter. Mais tout ceci, évidemment, suppose une réflexion par rapport au monothéisme. Et dans la tentation de saint Antoine, c'est étrange, le monothéisme. Il apparaît comme ça, mais boum, fini. Hein. Et puis finalement, la tentation de saint Antoine a quand même une sphère de vraisemblance historique qui fait que c'est sous la face du Christ. Alors quel Christ, hein, la face dans le soleil, c'est une espèce d'imagerie qui répond à l'œil de la cellule en plus. Donc là, on est tout à fait dans le rapport du physiologique et du métaphysique. Donc c'est évidemment la question du monothéisme est pour ainsi dire suspendue, complètement suspendue au profit de l'agonistique polythéiste.
Mais n'est-ce pas en même temps de s'imposer soi-même le système monothéiste? Il le transforme.
Mais pourquoi il s'impose de poème? Pourquoi s'impose-t-il le système monothéiste? Mais là aussi, c'est ce que montre Asman, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de monothéisme sans que dans le polythéisme, chaque dieu est un dieu. Je veux dire, il n'y a pas des dieux. Un dieu n'est pas partiel. Et donc, c'est ce qui montre dans l'Égypte et le devenir, the rise of monothéisme, comment le monothéisme se forme, évidemment, le mosaïque, enfin, c'est-à-dire c'est le moment de Moïse. Alors à ce moment-là, ce qu'il dégage, c'est l'exclusivité, c'est-à-dire que le culte qui se singularise a contre les autres l'exclusivité absolue. Or, précisément dans l'Antiquité, ce que Flaubert voit, c'est qu'au fond, les cultes coexistent. Ils sont à la fois uniques chacun, mais finalement ils coexistent parce qu'ils se ressemblent, parce qu'on les échange, parce que c'est une monnaie de circulation. Donc là, effectivement, la question du monothéisme, elle est suspendue, je dirais.
Dans le sacrifice à Moloch, même le grand prêtre, tout d'un coup, va changer.
Oui.
Oui. Le prêtre de Tanit va aller vers.
Oui, voilà. Il retourne sa veste. Il ne peut pas récupérer ce qu'il a perdu pour être prêtre de Tanit, mais il le fait symboliquement en arrachant le cœur.
Oui, c'est ça.
Absolument. Et il devient prêtre de Moloch, absolument. Ouais.
Pierre-Marc, le Viasi, derrière Marc.
Oui, oui, certainement. Ouais. Il y a moins d'imagerie. Là, c'est merveilleux ces images. Bien sûr. Oui, puis on peut pas parler du génie des fontaines quand on parle des monothéismes. Ça, si on veut parler à la fois du génie des fontaines et des figures de corail, ça a peu de place dans les monothéismes modernes. Sauf chez un cœur simple.
Oui,
dans un cœur simple,
c'est ça.
Mais un cœur simple résume cela. Le perroquet est comme un écho qui se disperse, c'est comme une fontaine qui s'épuise, bien sûr. Un cœur simple reprend tout cela très fortement dans la figure du perroquet.
Je suis d'accord avec Pierre, parce que tu sais, s'il y a une chose que le catholicisme
explique, c'est bien l'imagerie. Je parlais de Saint-Amour et de David.
Bien, on s'arrête là. On a...